La consultation anticipée, c'est l'expression de la démocratie. Naïma Mouchou, ministre des Outre-mer, répond au député Emmanuel Tchibaou qui accuse l'État de mettre la charrue avant les bœufs. Christian Théin va ouvrir le congrès extraordinaire du FLNKS à Ponérioin. Ce week-end, le leader de la CCAT, élu depuis président du Front indépendantiste, revient aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. L'actualité en métropole, et trois jeunes perdent la vie dans un accident dans le Gard. Ils sont morts noyés après que leur voiture a fini sa course dans une piscine. Ils avaient sans doute consommé du protoxyde d'azote avant le drame. Le sport, c'est du rugby et le tirage au sort clément pour l'équipe de France. Les Bleus connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de poule de la Coupe du Monde 2027. Les États-Unis, le Japon et les Samoa. La météo en Nouvelle-Calédonie, nette amélioration avec le retour du beau temps pour ce matin. Mais cet après-midi, on retrouvera un ciel plus nuageux sur une grande moitié nord, avec éventuellement une ondée sur le nord-est. Ailleurs, les éclaircies sont belles sous un ciel parfois voilé. Quant aux températures maximales, elles sont proches des normales, avec 26 à 31 degrés de l'île des Pins à la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une, l'avenir institutionnel.
Oui, le futur statut de la Nouvelle-Calédonie a été évoqué la nuit dernière à l'Assemblée nationale à Paris lors de la séance des questions au gouvernement. Premier orateur lors de cette séance, le député de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, a interpellé la ministre des Outre-mer, Naïma Mouchou, sur sa stratégie à l'égard de la Nouvelle-Calédonie. Il a d'abord décrit la situation économique du territoire qui a perdu 13% de son PIB, 10 300 personnes qui ont perdu leur emploi depuis 2024. Je cite « un pays au bord du gouffre qui attend toujours les arbitrages financiers de l'État ». C'est ce qu'a d'abord déclaré le député de la seconde circonscription avant d'interroger Naïma Mouchou sur l'annonce de la consultation anticipée sur l'accord de Bougival fixé le 15 mars. Pour le député de la seconde circonscription, je cite « on met la charrue avant les bœufs ».
Que dire de vos annonces sur la mise en œuvre d'une consultation anticipée sur le projet de Bougival, soumise aux Calédoniens au 15 mars, au premier tour des municipales? Vous aviez dit ici à l'Assemblée que le report des provinciales était une étape pour donner du temps, du sens au dialogue engagé en Calédonie. Si vous vous inscrivez dans la continuité des accords de paix, une consultation référendaire non inscrite à l'accord de Nouméa sur un corps électoral, on se pose la question, sans amendement, sans fondement juridique, sur un projet contesté qui pourra être mis en œuvre après une révision constitutionnelle, c'est mettre pour nous la charrue avant les bœufs. La semaine dernière, au Congrès, en commission, les groupes politiques ont exprimé leur opposition ferme à ce type de négociation au forceps. L'éveil océanien, Calédonie Ensemble, Unis et UCFLNKS se sont déclarés contre la consultation anticipée. Aujourd'hui, cette méthode nous rappelle des ministres qu'on a connus dans l'ancien temps. Je pense au ministre Ponce. C'est quoi la stratégie de l'État pour poursuivre cette trajectoire de décolonisation?
Et pour rappel, contrairement à ce que dit le député Emmanuel Tchibaou, la commission s'est tenue jeudi sans le groupe Uni et elle a émis à la majorité un avis favorable sur le projet de loi organisant la consultation citoyenne avec les voix des loyalistes et du Rassemblement. Les élus Calédoniens Ensemble et Éveil Océanien ont réservé leur vote pour la séance publique du Congrès prévue lundi prochain. Et sans surprise, le groupe UCF-LNKS a voté contre. Dans sa réponse, la ministre des Outre-mer a d'abord réfuté l'expression du député indépendantiste de négociation au forceps pour la consultation anticipée. Pour Naïma Mouchou, donner la voix aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, c'est tout simplement l'exercice de la démocratie.
Je ne peux pas laisser prospérer cette petite musique qui consisterait à dire que la consultation anticipée, ce serait du forceps, vous avez employé cette expression, ou du passage en force. Donner la voix aux Calédoniens pour se prononcer sur leur avenir, précisément, il me semble que c'est l'exercice de la démocratie. La consultation anticipée dont nous parlons, ce n'est pas une demande de l'État. Je suis allée il y a quelques semaines en Calédonie, j'y ai trouvé des forces politiques qui ne se parlaient plus. Nous les avons remis autour de la table. Qu'est-ce qui a émergé de ces discussions? Quatre choses. Le soutien à Bougival, la nécessité d'apporter des éclaircissements, des précisions à l'accord, une consultation anticipée et un plan de relance, vous avez parlé de la situation économique, sur lequel nous sommes en train de travailler d'arrache-pied avec le Premier ministre, conscient de la situation économique très défavorable, très dégradée du territoire. Ce n'est pas une demande de l'État, c'est ce qui a émané des forces politiques elles-mêmes.
La ministre des Outre-mer a ensuite estimé qu'il appartenait maintenant aux forces politiques locales de prendre leurs responsabilités, car l'État ne peut pas tout.
L'État met tout en œuvre pour créer les conditions du compromis. Nous avons relancé le dialogue, nous avons remis du mouvement. Nous envoyons une mission de confiance. Elle est en pleine discussion, en plein travail avec les forces politiques aujourd'hui pour tenter justement de clarifier les points indispensables à cet accord du Bougival. Il y a un suivi qui est fait constamment avec tous les partenaires politiques, tous, y compris le FLNKS. Je les ai eus encore en vision il y a quelques jours. Je leur ai dit, je vous dois l'écoute et la transparence et je ne dévie pas de cela. Mais vous allez me dire, que nous pourrions proposer. Mais vous savez que l'État ne peut pas tout. Et d'ailleurs, si c'est l'État qui proposait ce qu'il fallait faire telle ou telle direction, vous seriez les premiers à nous critiquer, et vous avez raison. Il appartient aux forces calédoniennes sur place de prendre leurs responsabilités, parce qu'elles ne veulent pas repartir de zéro, elles me l'ont tout dit. Il n'y a pas de projet alternatif aujourd'hui, et vous le savez, qu'il soit crédible, qu'il soit partagé. Le FLNKS, lui, veut repartir de l'accord Kanyaki. Ça n'est pas la voie du compromis. Et je veux dire une chose, c'est que la situation là-bas, elle est très dégradée. Et donc j'en appelle à la responsabilité des forces politiques, parce que c'est l'avenir des Calédoniens qui se joue là-bas. Allez, toutes les conditions sont réunies pour avancer.
Des propos recueillis à l'Assemblée nationale par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Pendant ce temps-là, la mission des trois facilitateurs poursuit ses échanges dans la plus grande discrétion. Depuis lundi, Thierry Lataste, Rémi Bastille et Benoît Lombrière rencontrent l'ensemble des groupes politiques. Ils doivent tenter, Elisabeth Noir, de consolider une nouvelle version de l'accord de Bougival, selon l'expression de la ministre des Outre-mer.
Il faut qu'une nouvelle version de Bougival soit consolidée, affirme Naïma Moutchou dans une interview au journal Le Monde. Elle déclare que quand elle a repris le dossier, Bougival était sur la table, mais qu'il était à l'arrêt. Pour elle, certaines questions comme l'exercice du droit à l'autodétermination ou les avancées dans la reconnaissance du peuple kanak et dans le processus de décolonisation n'étaient pas tranchées. C'est pour cela qu'avec le Premier ministre, ils ont voulu redonner du mouvement. Et elle évoque la mission des facilitateurs dont elle attend des résultats. Il faut, dit-elle, qu'une nouvelle version de Bougival soit consolidée. L'objectif est un accord consensuel. La ministre ajoute que les prochaines semaines seront déterminantes. Elle reconnaît aussi que les loyalistes et le Rassemblement ont fait beaucoup de concessions et que pourtant ils reviennent discuter et prennent leurs responsabilités. Tout le monde sait précisément quels sujets doivent être travaillés, ajoute Naïma Moutchou. Et elle énumère, peut-on préciser les signes identitaires de l'État de Nouvelle-Calédonie sur les compétences régaliennes qu'implique un transfert total au territoire? Si aucune compétence n'est transférée, faut-il prévoir un rendez-vous? Faut-il faire sauter l'un des verrous prévus pour les transferts? Et sur l'autodétermination, comment l'inscrire si c'est possible? La ministre ajoute que c'est fragile et que c'est difficile.
Alors Elisabeth, comme le dit la ministre des Outre-mer, est-ce vraiment fragile et difficile ?
Eh bien c'est le cas effectivement. D'après nos informations, les facilitateurs cherchent une voie étroite. Le retour du nouveau FLNKS autour de la table semble aujourd'hui impossible dans la mesure où il rejette complètement Bougival. Mais il s'agit aussi de trouver le moyen d'apporter certaines modifications au texte signé le 12 juillet, notamment pour que l'UNI se sente entendue, elle qui a souhaité des améliorations, notamment dans le domaine des modalités de transfert de compétences. Il s'agit aussi de convaincre Calédonie Ensemble, et ce n'est pas le plus facile, et l'éveil océanien. L'objectif est d'arriver à une rédaction suffisamment consensuelle pour que ces groupes qui ont émis des réserves acceptent de donner un avis favorable au projet de loi sur la consultation anticipée. Tout cela sans pour autant que les loyalistes et le Rassemblement estiment que l'équilibre de Bougival a été rompu. C'est lundi que le Congrès doit se prononcer. Autant dire que le temps est compté.
Et le FLNKS, qui a rencontré mardi les facilitateurs, a rencontré la presse hier après-midi pour présenter son congrès extraordinaire qui sera réuni samedi à Ponérioin. Et il s'inquiète pour la sécurité de son président Christian Théin, qui sera de retour aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, Elisabeth.
C'est manifestement l'arrivée et la sécurité de Christian Théin qui justifiait cette prise de parole du bureau politique du FLNKS. C'est lui qui prononcera le discours d'ouverture de ce congrès extraordinaire. Mais son retour en Nouvelle-Calédonie près d'un an et demi, après son départ en juin 2024 pour être incarcéré en métropole à Mulhouse, n'est pas du goût de tout le monde et suscite un certain nombre de réactions en Nouvelle-Calédonie, notamment sur les réseaux sociaux, et le FLNKS s'insurge. Il dénonce les propos hostiles à l'encontre de son président et il se plaint que certains aient forgé de lui l'image de l'ennemi public numéro un. Alors il interpelle l'État, un message transmis par Henri Juny de la CNPT, la Confédération Nationale des Travailleurs du Pacifique, qui est l'un des groupes de pression du nouveau FLNKS.
Le FLNKS constate que l'État français tolère les propos publics des radicaux anti-indépendantistes en regardant ailleurs, alors que les publications sur les réseaux sociaux sont de notoriété publique. Le bureau politique du FLNKS interpelle l'État. Il lui appartient de bannir sans délai tout comportement et toute communication dangereuse susceptible d'attiser des tensions et de mettre en péril la sécurité du président à tous les niveaux.
Voilà pour l'indignation du nouveau FLNKS qui se plaint de la stigmatisation dont ferait l'objet son président Christian Théin. C'est donc le président du FLNKS qui ouvrira samedi les travaux du congrès extraordinaire dans la vallée de Nimbaye à Ponérioin. À l'ordre du jour, la signature de la charte du FLNKS qui a été remise à jour, un point sur la gouvernance et un point d'étape après le congrès de la conception du 9 août qui avait rejeté Bougival. Le bureau politique du nouveau FLNKS confirme son rejet de Bougival qui va selon lui à l'encontre des objectifs de pleine souveraineté. Il affirme cependant avoir décidé de poursuivre le dialogue, et c'est dans cet esprit qu'une délégation a rencontré la mission des facilitateurs, même si le FLNKS ne veut pas s'engager dans la voie fixée par l'État, réaffirme Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC.
Le cadre de la mission qui leur a été confiée, c'est-à-dire faire des ajustements, des modifications, des bonifications, des propositions à partir du projet de Bougival, pour nous, on ne peut pas s'inscrire dedans. Tout simplement pourquoi ? Puisque nos fondamentaux n'y figurent pas et que le projet d'accord de Bougival qui a été rejeté, il n'a pas été rejeté pour rien. Il a été rejeté parce qu'il est complètement déséquilibré. S'engager dans cette voie, pour nous, c'est... la pente serait trop difficile à remonter. C'est pour ça que nous, on veut déjà attacher les choses d'abord. Enfin, c'est les choses, c'est la position qu'on a tenue auprès de la mission. En tout cas, les discussions vont se poursuivre dans le courant de la semaine. On fera le point au niveau du congrès du FLNKS. Lors du jour du congrès, c'est l'analyse de la situation politique sur les discussions et comment le front se projette pour la suite.
Et lors de ce congrès extraordinaire, le nouveau FLNKS doit donc analyser la situation et décider de son attitude pour savoir notamment comment il poursuit le dialogue, sur quelle méthode et sur quelle base.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Craignez-vous que le retour de Christian Théin en Nouvelle-Calédonie crée de nouvelles tensions ? Si vous le craignez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier à présent, 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent défavorables à une labellisation des médias comme l'a proposé Emmanuel Macron. Ils ne sont que 4% à se dire favorables à cette labellisation. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Vous rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Le PDG de l'IOM est actuellement en visite sur le territoire. Yvan Andona suit la situation économique des territoires ultramarins et particulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Alors, quel regard porte-t-il sur la situation économique et ses perspectives à court et moyen terme ? Quel rôle joue l'IOM dans l'accompagnement des acteurs économiques ? Yvan Andona, notre invité du matin, à retrouver à 7h30. Créer 10 000 emplois dans l'agroalimentaire, c'est l'ambition de la FINC qui a entamé une réflexion avec les acteurs concernés. Nous en parlerons ce midi dans les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra la vice-présidente de la FINC, Marie-Amélie Molia, ainsi que Maxime Costil et Sébastien Muller, respectivement directeur général et vice-président de l'ANIA, l'Agence nationale des industries alimentaires, actuellement sur le territoire. En attendant, il est 6h43, vous écoutez Radio Rythme Bleu après cette première pause publicitaire à l'actualité en métropole et dans le monde, avec notamment ce drame de la route dans le Gard sur fond de consommation de protoxyde d'azote. Bilan, 3 morts.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. L'info matin continue avec les Café Store Malongo.
L'odeur du café fraîchement torréfié. Un café s'il vous plaît. Objet déco, café de spécialité chez Malongo Café Store. Les petits producteurs font les grands cafés. Et le midi, découvrez la carte sur Facebook. Les Café Store Malongo NC.
Speed Marine booste son offre carénage pour cette fin d'année. 15% de remise sur votre anti-fouling en donnant le code SPEED2025. Ouvrez votre compte carénage chez Speed Marine et bénéficiez gratuitement du carshare et de l'échafaudage. Partez l'esprit tranquille avec Speed Marine. Retrouvez toutes nos offres sur notre page Facebook.
J'ai oublié l'apéro, on n'a rien à servir.
Relax, j'ai commandé la plaque pizza à la Maison du Pain.
Une plaque ? Mais c'est quoi ça ? 24 parts ? Mais tu penses à tout ?
Je sais. Et en bonus, j'ai même pris les desserts. Tartelettes framboise, cheesecake et tarte tatin, madame.
La plaque pizza sur commande, la Maison du Pain, complexe Le 4, 186 rue Jacques Yécaoué. Faites vos courses autrement.
Désolé Père Noël, cette année, on te pique ton travail. Chez Fabrique de Style, on a toute une sélection de produits déco, cadeaux, épicerie et même des sapins plus vrais que nature pour des fêtes réussies. Fabrique de Style, c'est une seule adresse pour tout le shopping de Noël, pour tous les goûts et tous les budgets. Fabrique de Style, votre adresse maison, cadeaux, déco, mobilier, 34 rue Eugène Porcheron au quartier latin. Fabrique de Style, ensemble, créons l'inspiration.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
L'horreur dans le Gard, un accident de la route a fait 3 morts. Le conducteur serait âgé de 14 ans et aurait consommé du protoxyde d'azote. Il a raté un virage et la voiture a terminé sa course dans la piscine d'une maison. Les occupants du véhicule n'ont pas pu sortir puisque les portières étaient bloquées et ils sont donc visiblement morts noyés. Écoutez le procureur d'Arles, Abdelkrim Grigny.
Il y avait des bonbonnes de protoxyde, au moins 4, voire même 5. Certaines étaient pleines, certaines étaient vides. Est-ce qu'ils ont consommé du protoxyde avant l'accident ? Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Est-ce qu'ils en ont consommé avant ? Peut-être. Après, ce qui est certain, c'est que j'ai demandé que des analyses et des expertises soient effectuées. Un prélèvement sanguin a été effectué sur les cadavres et des examens biologiques nous permettront de dire s'ils étaient sous l'emprise de produits stupéfiants, s'ils étaient sous l'empire d'un état alcoolique et s'ils étaient, le cas échéant également, sous l'emprise de protoxyde d'azote.
Et l'enquête a été confiée au commissariat d'Alès. Dans l'actualité internationale à présent en Algérie, le journaliste français Christophe Glaise voit sa peine de 7 ans de prison confirmée en appel. Il a de nouveau été condamné pour apologie du terrorisme. Mais la grâce accordée à Boualem Sansal le 12 novembre dernier avait soulevé l'espoir d'une libération du reporter. Écoutez son frère Maxime Glaise, il est abattu par la nouvelle.
C'est la définition un peu de l'abattement parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. L'espoir est vraiment retombé. Je pense à mon frère, à ma mère, à mon beau-père et à sa copine qui ont dû l'apprendre sur l'instant. Et j'imagine mon frère dans les prisons algériennes pendant 7 ans. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et on va continuer le combat pour qu'il y ait une issue favorable possible.
Le parquet algérien avait requis 10 ans de prison ferme et 3 300 euros d'amende. Il est 6h passé de 47 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment la lutte contre les flammes autour de la tribu de Kéré à l'île des Pins.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Les fêtes de fin d'année arrivent et vous n'avez toujours rien pour votre mari ni pour les enfants? Chez Gémeaux, vous trouverez des tas d'idées cadeaux avec vos héros préférés, Lilo et Stitch, Hello Kitty, La Reine des Neiges, Vaiana, Pat Patrouille, Spider-Man, Pokémon, One Piece, Dragon Ball Z et plein d'autres encore. Chez Gémeaux, jusqu'au 7 décembre, il y a tout ce qu'il faut pour le plaisir d'offrir.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Évadez-vous au Faramédé. Passez une journée inoubliable avec l'équipage souriant de Maridé. Téléphone 26 31 31. Réservez votre place sur notre site web amedeisland.com.
La clinique vétérinaire de l'Hippocampe renaît après l'incendie. Retrouvez-nous au 4e kilomètre, 6 rue Chalier, avec du matériel de pointe dernière génération et une équipe disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vos compagnons à quatre pattes. Plus d'infos sur Facebook, clinique vétérinaire de l'Hippocampe.
Besoin d'une carte de paiement tout de suite? Avec la carte Flash de Bibank, vous repartez instantanément avec. Et le Bibank Car arrive près de chez vous, tournez dans toute la Calédonie. Rendez-vous le jeudi 4 décembre à la mairie de Puebo, de 8h à 15h. Info 35 55 10 et 71 40 23. Bibunk, on fonce avec vous.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la lutte qui continue pour tenter d'éteindre l'incendie sur l'île des Pins. Le dernier bilan provisoire fait état d'un peu plus de 600 hectares brûlés autour de la tribu de Kéré. Le dispositif hors sec feu de forêt de niveau 2 est maintenu, même si la situation semble quelque peu s'améliorer. Écoutez les dernières précisions du capitaine Alexandre Rossignol, officier de permanence de la DSCGR.
Ce matin, il n'y a plus du tout de foyer actif, donc il n'y a pas de front de flamme visible actif. Par contre, il persiste pas mal de points chauds avec pas mal de fumée blanche, qui est dû à un feu qui est en sous-bois dans une forêt humide. Une partie du foyer a impacté l'ancien dépotoir avec les anciens déchets, et ça fume beaucoup. Nos équipes sont à pied d'œuvre. On renouvelle le dispositif ce matin avec deux hélicoptères bombardiers d'eau, plus un hélicoptère de la province sud et une trentaine de personnes qui font du travail de pionnier. Donc le travail de pionnier, c'est vraiment aller gratter le feu avec et faire des pare-feux avec une technique qui s'appelle le feu tactique. Ça a apporté ses fruits parce que là, pour l'instant, le feu, est, on va dire qu'il est plutôt fixé.
Et pour le moment, aucune habitation ni infrastructure ne sont menacées par les flammes. Dans le reste de l'actualité, en ce jeudi matin, le 9 janvier prochain, la maison de la Nouvelle-Calédonie fermera définitivement ses portes. Et 6 mois plus tard, la structure juridique sera dissoute. La décision a été actée par le conseil d'administration de la MNC en novembre dernier. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, avait regretté vendredi dernier dans le magazine Transparence que l'information ait fuité avant même que les procédures soient mises en place et que le personnel en ait été informé. C'est aujourd'hui chose faite et Alcide Ponga a donné des détails sur cette fermeture. C'est visiblement une page qui se tourne, Lionel Sabot.
Oui. Créée en 1989 au lendemain de la signature des accords de Matignon, la maison de la Nouvelle-Calédonie a connu plusieurs évolutions, mais elle a assuré au fil du temps ses deux principales missions, l'accueil des étudiants calédoniens qui viennent faire leurs études en métropole et l'accompagnement des malades évasanés. Elle a aussi permis d'encourager le rayonnement culturel du territoire et d'apporter un soutien logistique aux élus et agents publics pour leur séjour en métropole. Le fonctionnement de la maison de la Nouvelle-Calédonie était assuré par le gouvernement, le congrès et les trois provinces. province pour un besoin de financement qui s'est élevé jusqu'à 500 millions à certaines années. Une charge devenue d'autant plus lourde que certaines institutions, notamment la province Nord et la province Sud, ont mis en place leur propre structure d'accueil des étudiants. Quant à la province des Îles, elle ne pouvait plus assumer sa participation financière depuis plusieurs années. En 2025, le gouvernement a dû débloquer 300 millions pour permettre aux services de la MNC de fonctionner. Ce n'était plus possible et la fermeture de la MNC était devenue en quelque sorte inévitable. Ce n'est pas une décision politique, insistait Alcide Ponga, c'est de la simple gestion. On doit prendre des décisions cohérentes par rapport à la situation actuelle, a-t-il expliqué.
Depuis quelques années, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se retrouve seul à financer cette structure. Et compte tenu de la situation financière globale de la collectivité, il était clair à un moment donné qu'il fallait faire un choix drastique. Mais il y a aussi la question juridique liée à la structure. C'est une association de loi 1901 et la CTC avait déjà fait des préconisations pour dire que les collectivités de la Nouvelle-Calédonie n'avaient plus le droit de donner des subventions de l'ordre de 300 millions à 400 millions, voire même 450 millions à une seule association sans appel d'offres, etc., etc.
Il aurait fallu alors transformer la structure juridique d'association loi 1901 à celle d'un GIP, groupement d'intérêt public, qui aurait permis de sécuriser son financement, mais il n'a jamais été mis en place. Aujourd'hui, la fermeture est donc actée. Un liquidateur a été nommé pour traiter à tous les aspects liés à une fermeture de ce type. Selon un calendrier qui va s'étaler sur 6 mois. Il devra aussi accompagner les 12 salariés de la structure qui vont perdre leur emploi, un point très important pour Alcide Ponga.
Il y a une douzaine de salariés qu'on devra traiter avec humanité, parce que ce sont aussi des salariés qui ont rendu service à la maison de la Nouvelle-Calédonie et aux Calédoniens qui sont passés par la MNC pendant des années et des années. Il va y avoir des accompagnements, déjà dans les ruptures de contrats. J'ose espérer que les équipes qui seront en charge, parce qu'on a nommé un liquidateur de la structure, donc il aura le mandat de faire les choses bien, non seulement en respectant la réglementation du travail, mais en faisant peut-être un peu plus pour accompagner les salariés. Il y a aussi, j'en ai entendu parler pendant le conseil d'administration, des velléités de certaines personnes pour pouvoir revenir ici. Et on verra dans cette enveloppe globale de fermeture comment est-ce qu'on peut aussi accompagner celles et ceux qui veulent revenir.
Si les provinces Sud et Nord ont développé leur propre structure d'accompagnement des étudiants, il fallait aussi trouver une solution pour les malades évasanés en métropole. 187 d'entre eux sont passés par la maison de la Nouvelle-Calédonie. En 2024, la CAFAT a signé une convention avec Casodom, un organisme privé qui va assurer ce service à des tarifs moins élevés que ceux qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Nous avons demandé à Alcide Ponga si la fermeture de la maison de la Nouvelle-Calédonie marquait la fin de la présence de la Calédonie à Paris.
On travaille d'abord à arrêter cette structure pour les raisons que je vous ai expliquées auparavant, mais il y a en même temps une réflexion secondaire, mais qui est déjà en cours, pour l'ouverture d'une annexe du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à Paris. Et je pense que si on arrive à fermer la structure de la maison de la Nouvelle-Calédonie en juillet, je pense que derrière les 6 prochains mois sera le temps du travail, que ce soit technique, financier, mais également organisationnel, pour mettre en place une nouvelle structure qui sera la nouvelle maison de la Nouvelle-Calédonie, quoi, là-bas. Mais ça sera une structure rattachée directement au service et à l'administration de la Nouvelle-Calédonie.
Cette nouvelle structure plus resserrée, dont le coût estimé est 2 à 3 fois moins important que celui de la MNC, devrait permettre au service du gouvernement d'assurer une présence plus étroite avec les ministères, mais aussi avec les instances européennes pour trouver de nouveaux financements pour la Calédonie.
En bref, dans l'actualité institutionnelle, cette séance publique de l'Assemblée de la Province Sud ce matin, elle sera dominée par l'examen de plusieurs textes budgétaires. Les élus examineront en effet le budget primitif 2026 de la collectivité, axé sur la relance et la reconstruction. Ils devront aussi se pencher sur le partenariat avec BPI France pour le dispositif Sud Relance. Les élus devront également adopter la révision du plan d'urbanisme directeur des communes de Dimbéa, La Foy et Bouloupari. Cette séance se déroulera à partir de 8h dans la salle du conseil municipal de Nouméa. Et ce soir à 18h, c'est le conseil municipal de Nouméa qui se réunit avec 2 points à l'ordre du jour. La décision modificative numéro 2 du budget primitif de la commune et une convention de financement dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine pour l'année 2026. Un nouveau médecin pour le Mont-d'Or Sud, le docteur Jean-François Évin, a pris ses fonctions en début de semaine à l'appel de la province Sud pour travailler dans les espaces de santé de la Corniche au Vallon d'Or et de Plume. C'était attendu par la population qui fait face à un grave problème d'accès aux soins depuis 2024. Il s'agit aussi d'un maillage entre le service public et les médecins privés, toujours présents sur cette partie de la commune. Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, s'est rendue sur place hier dans la structure de santé du Vallon d'Or et de Plume.
On a voulu apporter une offre de soins stable aux habitants du Mont-d'Or Sud parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mouvements. On a des médecins qui, pour des raisons personnelles, font pas forcément toute la journée, font pas forcément toute l'année, partent parfois de longues périodes. Là, la province, avec ce médecin qui va être à moitié sur la Corniche, à moitié sur Plume, offre une offre médicale stable. Aujourd'hui, les habitants du Mont-d'Or Sud savent qu'ils peuvent trouver deux jours et demi un médecin à la Corniche, deux jours et demi ici un médecin à Plume. Les pharmaciens aussi sont rassurés parce que quand il n'y a pas d'offre médicale, c'est difficile pour eux de travailler. Donc je pense que ça va dans le bon sens.
Et l'objectif est d'assurer la continuité et de compléter l'offre de soins encore disponible sur cette partie de la commune du Mont-d'Or après le départ de nombreux professionnels de santé depuis 2024.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Et nous savions pouvoir compter sur votre générosité et elle ne se dément pas. Chaque jour, nous accueillons des auditeurs qui viennent porter des cadeaux à la radio pour participer à cette opération au cœur de Noël. Et ils partagent tous la même attention pour que Noël soit une fête pour tous, y compris pour les enfants des familles en souffrance. C'est le cas de Bénédicte.
C'est important pour moi que les enfants passent un joyeux Noël.
Pour cette occasion, qu'est-ce que vous nous avez apporté ?
Alors, beaucoup de peluches, des grosses, des petites peluches, des énormes peluches. C'est génial pour se blottir quand on est enfant. Et puis des jouets, il y a des puzzles, il y a des petits accessoires pour faire de la pâte à modeler, voilà. Je souhaite que toute la Calédonie passe de joyeuses fêtes de fin d'année.
Et tous vos cadeaux seront redistribués aux familles en difficulté, suivies par nos partenaires, la Société Saint-Vincent de Paul, le Secours catholique et la Croix-Rouge. Vous pouvez aussi participer à cet élan de générosité. Nous vous accueillons tous les jours à Radio Rythme Bleu de 7h à 19h. Et vous pouvez aussi, comme tous les ans, déposer vos cadeaux au magasin Petit Dôme, route de Lanzvata. 6h57, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot, avec notamment du rugby et ce tirage au sort pour la Coupe du Monde 2027.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Bientôt les vacances, le ciel, le soleil. Mais avez-vous pensé à votre assurance voyage? Avec Groupama Pacifique, vous pouvez la souscrire en ligne en quelques clics. Quelques mois, quelques jours ou même quelques heures avant le décollage. Annulation, bagages perdus, soucis de santé à l'étranger ? Groupama Pacifique vous accompagne partout dans le monde. Alors détendez-vous et rendez-vous sur voyage.groupama-gan.com.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Un mot de rugby, puisqu'hier soir pour nous s'est déroulé le tirage au sort de la phase de poule de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera en Australie, Lionel Sabot.
Oui, une Coupe du Monde qui se déroulera en 2027. L'aventure Coupe du Monde a donc en quelque sorte débuté pour les 24 équipes qui seront en compétition pour tenter de soulever après deux mois de compétition le trophée Webb Ellis. Hier soir s'est déroulé à Sydney le tirage au sort donc de la phase de poule. Les 24 équipes sont réparties en 6 poules de 4. L'équipe de France est dans le groupe du Japon, des États-Unis et des Samoa, groupe à la portée des Bleus qui ne cache pas leur ambition d'être champion du monde. Écoutez à ce sujet Fabien Galthié, le sélectionneur de l'équipe de France.
C'est notre ambition. De manière très claire, je vous réponds oui. Ça sera très difficile. C'est plus facile de ne pas l'être que d'obtenir ce Graal. Très clairement, le rugby français, l'équipe de France ne l'a jamais fait. Et notre ambition, c'est de l'atteindre. Pour nous, le staff, pour les joueurs qui composent cette équipe, à jamais les premiers, potentiellement.
Un coup d'œil aux autres groupes. Dans le groupe A, on retrouvera du lourd l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et Hong Kong. Dans le groupe B, on retrouvera l'Afrique du Sud, l'équipe double championne du monde en titre qui affrontera l'Italie, la Géorgie et la Roumanie. Dans le groupe C, on trouvera l'Argentine, les Fidji, l'Espagne et le Canada. Dans le groupe D, l'Irlande, l'Écosse, l'Uruguay, le Portugal. Le groupe E sera le groupe de la France. Enfin, le groupe F verra s'affronter l'Angleterre, le Pays de Galles, les Tonga et le Zimbabwe.
Merci Lionel Sabot, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, voici les prévisions du Centre Météo France. Nette amélioration pour ce matin avec le retour du beau temps sur le territoire. Seules les Loyautés conserveront un temps plus nuageux avec encore quelques ondées au début de journée. L'Alizé, lui, orienté sud-est sur le territoire, il soufflera autour des 15 nœuds, 15 à 20 nœuds ailleurs, voire 20 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds sur le nord-ouest et la pointe nord. Cet après-midi, ciel nuageux sur une grande moitié nord avec éventuellement une ondée sur le nord-est. Ailleurs, les éclaircies seront belles sous un ciel parfois voilé. Le vent orienté sud-est 20 nœuds, voire 20 à 25 nœuds et des rafales jusqu'à 35 nœuds sur le nord-ouest et le sud de la côte est, localement aux Loyautés. Il sera plus faible sur le nord-est, autour des 15 nœuds. Les températures, elles comprises entre 26 à 31 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Il sera disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction et vous avez un avis. Vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.